Le 22 juillet, j'ai annoncé à Sadie que j'avais des courses à faire à Dallas et lui ai proposé de demander à Deke de passer la voir pour s'assurer que tout allait bien. Elle m'a assuré que ce n'était pas la peine, que tout se passerait bien. Elle redevenait peu à peu la Sadie d'avant. Un pas après l'autre, certes, mais elle était en bonne voie. Elle ne me posa pas de questions sur la nature de mes courses. Mon premier arrêt fut pour la First Corn, où j'ouvris mon coffre-fort et vérifiai les notes de Hal, afin d'être bien sûr que je me souvenais correctement de ce que j'y avais lu. Effectivement, Tom Case allait battre Dick Tiger par KO au 5e round. Hal avait dû trouver l'info sur le net parce qu'il avait quitté Dallas et les brillantes années 60 bien avant cette date. Y a-t-il autre chose pour votre service aujourd'hui, monsieur Humberson ? Me demanda mon banquier alors qu'il m'escortait jusqu'à la porte. Eh bien, vous pourriez dire une petite prière pour que mon vieux copain Hal Templeton n'ait pas avalé un tas de couleuvres en surfant sur le net. Peut-être. Savez-vous où je pourrais trouver un magasin de costumes ? Je suis censé faire le magicien au goûter d'anniversaire de mon neveu. Après un bref parcours des pages jaunes, la secrétaire de Mr. Link m'indiqua une adresse dans Young Street où je pus me procurer ce dont j'avais besoin. Je suis allé le ranger dans l'appartement de West Neely. Vu que je continue à payer le loyer, autant qu'il serve à quelque chose. J'y ai aussi laissé mon revolver, sur l'étagère supérieure du placard. Le micro, que j'avais retiré de la lampe à l'étage, atterrit dans la boîte à gants de ma voiture avec le petit magnétophone japonais. Je m'en débarrasserai quelque part dans la garrigue sur le chemin du retour à Jody. Il ne m'était plus d'aucune utilité. L'appartement du premier étage n'avait pas été reloué et il régnait un silence sinistre dans la maison. Avant de quitter Neely Street, je me suis promené dans la petite cour latérale clôturée où, il y a seulement 3 mois de ça, Marina avait pris Lee en photo avec son fusil. Il n'y avait rien de plus à voir que de la terre battue et quelques mauvaises herbes coriaces. Mais comme je me détournais pour m'en aller, j'ai aperçu un objet de couleur rouge sous l'escalier extérieur. C'était un hochette bébé. Je l'ai ramassé et mis dans la boîte à gants de ma Chevy, lui aussi. Mais contrairement au micro, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Mon arrêt suivant fut le ranch de plein pied de Simpson Stewart Road, où George de Morenchild vivait avec sa femme Jane. Dès que je l'ai aperçu, cependant, j'ai rejeté l'idée d'y avoir l'entrevue escomptée. D'abord, je ne pouvais pas savoir exactement quand Jane serait là ou pas, et notre petite conversation devait être strictement privée, deux types en tête à tête, sans témoin. Ensuite, l'endroit n'était pas si isolé que ça. Le Paul Quinn College, un établissement réservé aux Noirs, se trouvait à proximité, et les cours d'été avaient dû commencer. Il n'y avait pas des hordes de jeunes gens, mais j'en ai néanmoins vu un certain nombre, quelques-uns à pied, d'autres en vélo. Mauvais pour moi. Il était possible que notre discussion prenne un tour bruyant. Il était possible aussi qu'elle ne réponde pas tout à fait à la définition du mot « discussion » que donne le dictionnaire. Quelque chose a attiré mon regard. Sur la vaste pelouse des Morenchild, où des arroseurs projetaient dans les airs de gracieux embruns qui faisaient naître des arcs-en-ciel si petits qu'on avait envie de les prendre dans la main et de les mettre dans sa poche. 1963 n'était pas une année d'élection, mais au début du mois d'avril, à peu près en même temps qu'on avait tenté d'assassiner le général Edwin Walker, le représentant de la 5e circonscription était mort subitement d'une crise cardiaque. Des élections auraient lieu le 6 août pour pourvoir son siège. La pancarte disait « Votez Jenkins dans la 5e. Robert Robbie Jenkins, le chevalier blanc de Dallas. » D'après ce que disaient les journaux, Jenkins était exactement ça. Un politicien d'extrême droite qui partageait les vues de Walker et du conseiller spirituel de Walker, Billy James Hargis. Robbie Jenkins prônait le droit des États, le régime des écoles séparées mais égales et le rétablissement du blocus de Cuba instauré lors de la crise des missiles. ce même Cuba que Morenchild avait appelé « cette île magnifique ». Cette pancarte venait renforcer le sentiment que m'avait inspiré Morenchild. C'était un dilettante qui, au fond, n'était animé d'aucune conviction politique. Il soutenait qu'il amusait ou glissait de l'argent dans sa poche. Lee Oswald ne pouvait pas satisfaire cette deuxième option. Il était si pauvre que Job paraissait plein aux as en comparaison. Mais son engagement dépourvu d'humour pour le socialisme, combiné à ses grandioses ambitions personnelles, avait abondamment fourni à Morenchild matière à divertissement. Une déduction s'imposait. Lee n'avait jamais foulé cette pelouse, ni sali de ses chaussures de pauvre les tapis de cette maison. Ceci, c'était l'autre vie du baron Morenchild, ou l'une parmi d'autres. J'ai eu le sentiment qu'il en avait peut-être bien plusieurs, toutes conservées dans divers compartiments étanches. Mais cela ne répondait pas à la question centrale. Ce type s'ennuyait-il au point d'avoir pu accompagner Lee dans sa mission contre le monstre fasciste Edwin Walker? Je n'en savais pas assez sur lui pour émettre beaucoup plus qu'une hypothèse. Mais j'en aurais bientôt le cœur net. Je me l'étais juré. L'écriteau dans la vitrine du Mont-de-Piété de Frank Fratti annonçait « Bienvenue à la centrale de la guitare ». Et en effet, il y en avait des quantités en exposition. Acoustique, électrique, à 12 cordes, et une à double manche qui me rappelait un truc que j'avais vu dans une vidéo du groupe Mötley Crüe. Bien sûr, il y avait aussi tous les autres détritus de vie flinguée, des bagues, des broches, des colliers, des radios, des petits appareils divers. La femme qui m'a reçu était maigre, et non grasse. Elle portait un pantalon à pinces et un chemisier Ship and Shore, et non une robe violette et des mocassins. Mais son visage imperturbable était le même que celui d'une certaine femme rencontrée à Derry. Et j'ai entendu les mêmes mots sortir de ma bouche, ou une version suffisamment proche pour ne pas chercher plus loin l'effet harmonique. Je voudrais discuter avec Mr. Fratti d'une proposition d'affaires assez importante axée sur le sport.
Ah ouais? Ce serait-il pas un pari ou je m'y connais pas?
Vous êtes flic?
Ouais, je suis le chef Curry de la police de Dallas. Vous m'avez pas reconnu aux lunettes et aux bajoux?
Je ne vois ni lunettes ni bajoux, madame.
C'est parce que je suis déguisé. Sur quoi que vous voulez parier au milieu de l'été, mon pauvre vieux?
N'y a rien sur quoi parier.
Case Tiger.
Quel oiseau?
Case.
Elle leva les yeux au ciel, puis cria par-dessus son épaule.
Tu ferais bien de te ramener Fissa, pas. Il y a un gogo pour toi.
Frank Fratti était au moins deux fois plus âgé que Chas Fratti. La ressemblance était néanmoins frappante. Ils étaient parents, c'était évident. Si je lui signalais que j'avais un jour placé un pari chez un certain Mr. Fratti de Derry dans le Maine, je ne doutais pas que nous pourrions avoir un sympathique petit échange sur le fait que le monde est petit. J'ai préféré aller droit au but.
Pourrais-je placer $500 sur Tom Case contre Dick Tiger au Madison Square Garden?
Ma foi, oui, me répondit Fratti. Vous pourriez tout aussi bien vous coller un fer rouge au fond du popotrin. Mais pourquoi voudriez-vous faire une chose pareille, je vous le demande?
Sa fille glapit d'un bref rire clair. Quel genre de cote puis-je espérer? Le père regarda la fille. Elle éleva les deux mains. Un doigt levé dans la droite, deux dans la gauche.
Deux contre un? C'est ridicule.
La vie est ridicule, mon ami. Allez donc voir une pièce de Ionesco, si vous ne me croyez pas. Je vous recommande « Victime du devoir ».
Au moins, il ne m'appelait pas cousin, comme son cousin de Derry l'avait fait.
Travaillez un peu avec moi là-dessus, monsieur Fratti.
Il se saisit d'une Epiphone Hummingbird acoustique et se mit à l'accorder. En deux temps trois mouvements, c'était fait. Ce type était d'une rapidité prodigieuse.
Alors, donnez-moi quelque chose sur quoi travailler ou filez à Dallas. Il y a un endroit là-bas qui s'appelle...
Je sais. Je préfère Fort Worth. J'y ai habité.
Oh ben, que vous en ayez déménagé témoigne de plus de bon sens que votre envie de parier sur Tom Case.
Et si on disait Case par KO dans les 7 premiers rounds, quelle cote ça me donnerait ?
Il regarda sa fille. Cette fois, elle leva 3 doigts de la main gauche.
Et Case par KO dans les 5 premiers ?
Elle a délibéré intérieurement, puis soulevé un 4e doigt. J'ai décidé de ne pas pousser plus loin. J'ai inscrit mon nom dans son registre et lui ai montré mon permis de conduire, en posant mon pouce sur mon adresse de Jody, comme je l'avais fait quand j'avais parié sur les Pirates à Faith Financial, il y avait presque 3 ans de ça. Puis je lui ai remis mes $500, ce qui représentait environ le quart de tout l'argent liquide qui me restait, et j'ai rangé le reçu dans mon portefeuille. $2000 suffiraient pour financer toute la chirurgie de Sadie et me permettre de tenir pour le temps qui me restait à passer au Texas. En outre, je ne voulais pas plus gruger ce Frati que je n'avais voulu gruger l'autre, même s'il m'avait mis Bill Turcotte au cul. « Je repasserai le lendemain du balai, je leur ai dit, et que mon argent soit prêt. » La fille éclata de rire et alluma une cigarette.
« C'est pas ce que la danseuse de revue avait dit à l'archevêque ?»«
Est-ce que votre petit nom serait pas Marjorie, par hasard ?» Elle s'est figée, cigarette en l'air, fumée coulant à flots de ses lèvres.
« Comment vous le savez ?»
Voyant mon expression, elle a encore éclaté de rire.
« En fait, c'est Vanda, mon pote. J'espère que vous pariez mieux que vous ne devinez le nom des gens. »
Tout en rejoignant ma voiture, je me faisais la même réflexion.